Back FM, il est 18h30 et c'est un nouveau numéro de job que je vous propose aujourd'hui. Et on va évoquer un service assez spécifique, c'est la direction des services informatiques. On va pouvoir évoquer toutes les branches qui sont disponibles et comment on peut travailler également dans ce service avec mes invités dans quelques instants. Allez, Back FM, on est parti pour un nouveau numéro de job et on va parler aujourd'hui de quelque chose de très sérieux, de la Direction Générale des Finances Publiques. Et puis, plus particulièrement, juste après, on parlera aussi des établissements de services informatiques. Alors, pour ça, j'ai deux personnes avec moi dans le studio. Monique Couderc, vous êtes responsable de l'ESI, l'ESI de Nevers. Bonjour.
Bonjour, oui, alors, c'est tout à fait ça.
On va revenir sur ce que ça veut dire, hein, l'ESI, parce que c'est vrai que pour beaucoup d'auditeurs, je pense que c'est relativement flou. Et notamment même le terme de Direction Générale des Finances Publiques, ça va être important aussi de préciser qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça concerne et quelles sont les missions aussi de cet établissement. Et puis avec vous, Laurent Quintaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes informaticien, vous êtes inspecteur divisionnaire PSEI.
PSE, tout simplement.
PSE, pardon. PSE.
C'est ça, exactement.
Alors là encore, des abréviations, va falloir nous expliquer tout
oui,
ça.
Oui, tout à fait.
Qu'on comprenne bien. Alors on va revenir sur les différents métiers, justement, qui font partie de ce service et leurs missions différentes aussi, mais qui se rejoignent au final, j'imagine, bien sûr. Juste avant, la Direction Générale des Finances Publiques, pour beaucoup, c'est tout simplement les impôts. Mais en fait,
c'est beaucoup
pas
plus.
Vraiment. Ouais.
On est d'accord. Donc déjà, c'est une administration d'État. Au même titre, par exemple, que l'éducation nationale. Ouais. Donc, on est rattaché au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Et donc, en fait, c'est une grande administration parmi 24 autres directions de ce ministère qui travaillent donc dans la sphère économique et qui œuvrent pour une économie forte et durable. Donc, nous sommes une administration de réseau, c'est-à-dire qu'on est implanté à la DGFiP sur l'ensemble du territoire national et en Outre-mer.
Avec des délocalisations,
c'est
entre
ça.
Guillemets, dans chaque département.
Tout à fait. Donc, dans chaque département, suivant la taille du département, vous avez une direction départementale ou une direction régionale.
Okay.
Et au sein de ces départements, vous avez ensuite des structures infradépartementales qui sont installées au sein du département. Donc, on a 95 000 agents et environ 4 900 implantations, donc métropole, outre-mer, y compris à l'international. Je
oui.
le dis, c'est important aussi, puisque on a une action aussi internationale.
Oui, pour les Français qui vivent à l'étranger.
Oui, voilà, on a. Et donc, en fait, ce qui veut dire que déjà, quand on dit ça, on voit que c'est une administration où on a beaucoup de possibilités de mobilité. Donc, la première mobilité, elle est géographique. Et puis, elle est aussi, j'allais dire, fonctionnelle, puisqu'on a plus de 50 métiers qui sont exercés au sein de la DGFiP, dans des domaines relativement variés.
Et des branches, d'ailleurs, où il y a des demandes dans toutes ces branches,
tout
il y a des recherches d'emploi pour
des recherches d'emploi,
ouais.
puisqu'on y viendra peut-être tout
oui,
à l'heure.
Sûr, ouais.
Donc, on recrute non seulement dans la sphère informatique, qu'on va vous présenter un petit peu plus en détail, mais aussi dans la sphère administrative. Et on recrute dans tous ces métiers, et au cours d'une carrière des GFIP, on peut exercer différents métiers.
Alors, justement, vous avez parlé de sphère informatique, de sphère administrative. Comment ça fonctionne?
D'accord. Donc, en fait, la sphère administrative, en fait, on a un petit peu plus de 50 métiers dedans et on a des missions principales. Donc, on a déjà des missions support. Donc, c'est-à-dire, on gère déjà nos hommes,
ouais.
nos bâtiments et notre informatique. J'y reviendrai après. On a la plus connue, comme vous disiez, les impôts, c'est-à-dire des missions en matière fiscale. Donc, on lutte contre la fraude fiscale, on calcule et on recouvre l'impôt. On établit les textes fiscaux. Donc, ça, c'est, j'allais dire, le plus connu.
Ouais.
Mais on a aussi une grosse activité en matière de gestion publique. Donc, il faut savoir qu'on tient la totalité des comptes de l'État. On est comptable pour l'État et pour l'ensemble des collectivités territoriales et locales.
Rattachées à l'État.
Alors, deux choses. L'État en lui-même
ouais.
et puis également les collectivités locales. Par exemple, si on prend l'exemple de la Nièvre, les communes.
D'accord.
Nevers, Clamecy, Cosne, les communautés de communes ou communautés d'agglomération. Et on tient également les comptes de l'ensemble des établissements publics locaux et hospitaliers. Donc,
d'accord.
L'hôpital de Nevers
ouais.
dépend d'un comptable public qui travaille donc à la Direction Générale des Finances Publiques. Donc pour ça, et on a donc, on fait aussi, donc, non seulement on tient les comptes de l'État, on fait beaucoup de conseils aux collectivités locales. Et également en matière de gestion publique, on a une forte activité économique, en particulier en matière d'accompagnement et de soutien aux entreprises.
Cette mission de conseil,
oui.
C'est par exemple de comment gérer un budget.
Tout à
comment...
fait. D'accord. Comment faire un budget, comment imputer ses dépenses. On fait des études économiques aussi et financières pour les collectivités locales. On peut faire des études fiscales en matière de taux d'imposition locale. Mmh. Voilà ce qu'on fait. Et puis, on conseille au quotidien nos élus locaux qui posent des questions.
Et le dernier intéressant aussi de l'accompagnement pour les entreprises,
c'est ça ?
Tout à fait.
C'est-à-dire, on aide les entreprises, on les accompagne quand elles sont en difficulté, par exemple. Dans le cadre
qu'elles sont à l'approche d'un redressement judiciaire, par exemple.
Oui, ou même un petit peu avant, où on les aide, par exemple, en période de crise. On a pu le voir au moment du Covid, où on a aidé de façon relativement importante donc, les entreprises. Et ce soutien-là, on l'assure aussi auprès des personnes physiques, puisqu'on a un rôle au niveau de la commission de surendettement. Donc, on est présent également à la DGFiP. On a un représentant de la DGFiP qui accompagne le préfet dans cette commission.
Donc, ça peut être à titre professionnel comme à titre personnel
c'est
également.
C'est ça, tout à fait, exactement. Et on en parlera après si on cite un ou deux sites informatiques, par exemple, pour tout ce qui est ce volet. Alors là, on est plutôt sur de la fiscalité. On a un site qui s'appelle impots.gouv.fr, qui est un site donc informatique fait par la DGFiP. Est maintenu en état de fonctionnement par la DGFiP.
Ouais, ça, c'est par exemple un des métiers
qui est
proposé.
C'est un des métiers qui est proposé, mais ce n'est pas le seul.
Alors, il y a le système d'information, dont des établissements donc, de services informatiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi les missions de ce service informatique ?
Oui. Donc, en fait, pour arriver à faire fonctionner cette administration, on a tout un système informatique intégré, qui est à la fois à destination des usagers grand public, des entreprises, des particuliers, des collectivités locales, mais qui sont également utilisés en interne par nos propres agents, sur des tas de secteurs d'activité.
Et alors donc, établissement de services informatiques, vous en êtes la responsable.
C'est ça.
Ça veut dire quoi, être responsable d'un établissement de services informatiques ?
Alors peut-être vous expliquer déjà comment c'est structuré ?
Oui.
Avant, voilà. Donc en fait, au niveau donc, du système d'information ou du système informatique de la DGFiP, donc, il faut savoir donc, qu'on a 700 applications qu'on développe. Qui sont mises en service et qui sont maintenues, c'est-à-dire en état de fonctionnement.
Par exemple, des fois, quand on veut aller dessus et que ça met le site est en maintenance,
c'est nous.
C'est parce qu'il y en a qui sont en train de travailler dessus.
Exactement.
Quand les gens
râlent. Vas-y, Laurent, complète. On essaie de limiter, au maximum.
Généralement, on fait attention de travailler en dehors des plages horaires.
Oui, où les gens sont présents sur l'application.
C'est ça.
C'est ça, exactement.
Ouais.
Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on a une plage horaire qui est très étendue, puisqu'en fait, on travaille également pour la partie TOM et la partie DOM. En fait.
Oui.
Donc les départements d'outre-mer ont pas avec les décalages horaires, on est obligé de travailler sur des plages horaires assez longues.
Oui, bien sûr, mais forcément, oui.
Et donc ces 700 applications, on est un petit peu à environ 5000, donc c'est un agent sur 19 au sein de la DGFiP, donc qui travaille dans cette sphère informatique, et on est réparti sur l'ensemble du territoire national. Métropole et Dom-Tom. Et on est également donc organisé en direction informatique. Donc il y a une administration centrale informatique, on va dire, sur Paris.
Ouais.
On a 7 directions de services informatiques régionales. Et dans certains départements, on a des établissements de services informatiques, comme par exemple celui de Nevers, qui a différentes missions informatiques.
D'accord. Et qui sont du coup ?
Alors, on fait...
Propre au département ou est-ce que c'est des missions qui peuvent...
Alors, c'est des missions nationales avec des métiers qui sont nationaux, j'allais dire. Et suivant les établissements de services informatiques, on ne fait pas la même chose.
Ouais, les missions changent selon la demande ou...
C'est selon l'établissement.
D'accord, ok.
On est plutôt spécialisé ou pas dans certains secteurs d'activité. Donc, il faut savoir qu'on a 35 établissements de services informatiques. Nous dépendons d'une direction régionale qui est sur Lyon. Mmh. Et on a au total 6 ESI, donc Nevers, Lyon, Mézieux, Clermont, Grenoble et Dijon.
Alors, ESI, c'est ça. Donc c'est
établissement de services informatiques. Et donc, on pilote un ensemble de collègues qui sont informaticiens ou pas, parce qu'on a aussi un petit peu d'administratif pour faire tout ce qui est bâtimentaire et gestion des RH. Et donc là, on exerce différents métiers de la DGFiP.
Donc, pour vous répondre, sur Nevers, par exemple, on a la partie hébergement. On a également une partie production en fait applicative dans laquelle on va mettre en place des systèmes d'information ou des applications telles que vous les avez sur l'impôt, le portail impôt.gouv.fr. On va faire de la maintenance, on va des fois les mettre en production, c'est-à-dire les mettre pour la première fois sur le site pour les utilisateurs. On a également toute une partie qui est, alors là c'est moins spécialisé puisqu'on en retrouve un petit peu dans tous les établissements, c'est la partie réseau. Avec la partie CIL et la partie CID.
Voilà, donc ces deux structures, c'est de l'assistance en fait.
C'est ça.
Donc c'est-à-dire qu'on fait de l'assistance à l'ensemble des agents de la Direction départementale des finances publiques et de l'ENFIP, puisqu'on a aussi une école DGFiP ici.
D'accord.
Et donc,
une école.
Une école, oui, rue de Gonzague. Vous avez l'établissement des finances publiques qui est une école. On a
pour les personnes qui veulent intégrer, ils ont une formation.
Oui, mais là c'est de la formation continue que fait cette école-là. Et ensuite, on a des formations initiales.
D'accord.
Et pour la sphère informatique, c'est une école qui est basée sur Toulouse, hein, où
d'accord.
on fait une formation voilà. initiale de 10 mois.
Parce que pour tous les métiers que vous a cités, Madame Coudert, au départ, l'école, enfin l'université, le lycée, le BTS, les filières en fait de l'éducation nationale, ne préparent pas particulièrement à ces métiers-là. Et donc, du coup, on a une école. En fait, on passe en concours. Hein, le principe de sélection est ceci. On passe le concours. Et une fois qu'on a le concours, on intègre l'école. Où on est payé, on vous en parlera un petit peu plus après. Et c'est là où on va apprendre en fait le corps de métier.
D'accord.
La matière fiscale,
qu'est-ce
que l'impôt, et
donc,
ainsi de suite.
Beaucoup plus, donc pour revenir sur nos missions, donc sur Nevers, on fait donc de l'exploitation applicative, c'est ce que disait mon collègue. Donc on maintient un état de fonctionnement, un ensemble d'applications, grand public ou utilisées en interne. Vous avez ensuite de l'assistance de proximité, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui se déplacent dans tout le département et également un petit peu dans le 89 qui vont installer tous les postes de travail des agents.
Ouais.
Et puis, on a aussi une assistance téléphonique, puisqu'on fait l'assistance téléphonique sur Nevers pour les entreprises, quand elles se connectent sur le site impôt.gouv.fr.
Uniquement entreprises, là. Uniquement entreprises. Professionnelles.
Professionnelles, tout à fait. Et vous avez d'autres ESI où ils ont ce type d'assistance, où ça, c'est plutôt pour les particuliers.
Ah oui,
Ça va être aussi de l'assistance par téléphone ou par formulaire qui se font pour nos agents, nos propres agents, un problème sur une application, sur un fonctionnement. Ils ont un numéro d'appel qu'ils peuvent contacter. Et donc, ce qu'on fait également, c'est de l'intégration. Alors, c'est un terme qui n'est peut-être pas purement informatique. C'est en fait, sur Nevers, on teste des applications avant leur mise en service. Puisqu'il y a la création de l'application, le développement, pour faire simple, le test, la mise en production, c'est la mise en service et le maintien en état de fonctionnement.
Oui, c'est l'utilisation zéro avant qu'elle soit dévoilée au grand public, quoi, bien sûr.
Et là, on regarde comment elle fonctionne seule, comment elle fonctionne en liaison avec d'autres applications. Donc, en fait, quand on regarde, on a beaucoup de métiers en fait, dans la sphère informatique. On peut être architecte, on peut faire du développement, on peut faire du test, on peut faire de l'exploitation, on a l'assistance et on a également tout un volet sécurité, cybersécurité, qui est plutôt géré ça par le niveau national. Hein. Voilà. Et donc, suivant les établissements de services informatiques, on a différentes missions. Donc, nos grands métiers, c'est le développement, c'est-à-dire on crée, on fait évoluer nos applications.
Ouais, bien sûr.
C'est l'intégration, c'est ce que je vous disais, les tests. L'exploitation des applications, c'est-à-dire on les met en prod et on les maintient en état de fonctionnement. Et tout un volet assistance qui est de proximité ou téléphonique.
Tout à l'heure, justement, je vous présentais comme inspecteur divisionnaire PSE.
C'est ça.
Ouais.
Alors, on a bien compris le rôle de responsable, finalement, du coup, de l'ECI, rien que par votre prise de parole, déjà votre présentation, bien sûr. Mais alors, inspecteur divisionnaire, qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, je m'occupe d'une division. Ça veut dire qu'en fait, j'ai une délégation pour m'occuper, de la part de ma responsable de centre, pour m'occuper plus spécifiquement, en fait, d'une partie de nos missions. Donc, à l'occurrence, moi, je m'occupe de la partie intégration et de la partie hébergement.
Et alors, finalement, donc, l'intégration, qu'est-ce que ça implique ?
Alors, l'intégration, il y en a de deux types. Donc, il y a une partie intégration système et une partie intégration applicative.
D'accord.
Sur Nevers, on va faire les deux. Donc, je vais vous parler des deux rapidement. Donc la partie système, en fait, c'est tout ce qui est mise en place de la machine pour la première fois. Grosso modo, quand vous recevez un serveur informatique, quel qu'il soit, il est livré brut, d'accord. Et donc là, en fait, les équipes qui s'occupent de l'intégration système, elles vont devoir, en fait, ce qu'on appelle stager, ça veut dire mettre en place le serveur, lui mettre, en fait, un socle qui soit compatible au niveau de la DGFiP avec nos outils, et puis pouvoir le préparer, en fait, à accepter l'application derrière. Donc on va gérer la partie réseau, on va monter les cartes, on va s'occuper de la partie disque, on va permettre au serveur de booter, gérer sa mémoire et ainsi de suite.
La sécurité aussi ?
Alors la sécurité aussi, tout à fait, mais ça va être dans un deuxième temps. C'est une fois que l'application va être en fonctionnement, on va vérifier qu'elle fonctionne par elle-même. Ouais. Et ensuite, elle va s'ouvrir un petit peu au monde, un petit peu comme on fait un enfant, je veux dire.
Voilà. Ouais, bien sûr.
Il s'ouvre au monde et donc dans ce cas-là, on va commencer à regarder en fait quels sont les protocoles de sécurité qu'on peut passer, ainsi de suite.
Pour éviter que l'application soit...
Oui, voilà, par exemple, dans le cadre d'une connexion au serveur, on va avoir un protocole sécurisé de connexion pour pouvoir passer nos commandes d'administration. On va également avoir des protocoles sécurisés pour permettre, en fait, donc des services qui sont lancés sur les serveurs qui permettent l'accès au HTTPS, en fait, que tout le monde connaît, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça fait partie de l'intégration. Avant de mettre en production, on va tester l'application comme si elle était en production. C'est-à-dire que l'environnement de test, il simule en fait complètement l'environnement de production. Une fois que l'environnement de test est posé et que l'application tourne, on évalue si elle est conforme ou pas. Si elle est conforme, eh bien on dit très bien, ça s'appelle un go. On va laisser un go côté à la production pour qu'ils puissent installer de leur côté.
Ensuite, prendre la relève.
Okay. Exactement. Donc, ils utilisent la documentation qui était fournie au départ à mes équipes d'intégration, qui a été amendée par mes collègues en disant « Attention, ça, c'est plutôt un site. Voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça plutôt que ça, ainsi de suite. » Et ça va être monté en production pour éviter de perdre trop de temps et aller vite sur la partie production. Ou alors, c'est, malheureusement, y a trop d'erreurs, ça passe pas. Eh bien, on va revenir côté métier de développement pour qu'ils réécrivent des parties. Et après, ça va de nouveau revenir en intégration, ça va être testé, ça va repartir. Le but pour nous, c'est vraiment d'offrir, en fait, on est sur des missions support. Donc, le but, c'est d'offrir aux usagers quelque chose qui fonctionne et pour lequel, en fait, l'administration fiscale permet de donner les moyens, en fait, au niveau informatique.
Est-ce que, par exemple, vous testez la manière dont les gens vont arriver sur cette application ? Est-ce que vous allez tester, par exemple, est-ce que c'est bien compréhensible ? Est-ce que ce n'est pas trop... compliqué.
Alors, normalement, voilà, on travaille avec un système d'ergonomie. On a tout un système ergonomique autour de l'application qui permet de savoir, avec une charte graphique, par exemple, qui est bien déterminée, qui permet tout le temps de reprendre, en fait, au niveau système et au niveau applicatif, que le bouton est à gauche, que la partie des connexions, et ainsi de suite. Donc, tout ça est testé aussi, je veux dire, une application qui rentre dans le portail impop.gouv.fr, il faut qu'elle puisse être déconnectée quand vous appuyez sur déconnexion au niveau du portail.
Oui, bien sûr, oui.
Donc, voilà. Et idem pour la partie sécurité. Donc l'exploitation applicative au niveau d'un établissement informatique, là on est sur l'autre volet, on est sur le volet production. Donc l'application a été testée, elle a été mise en production et maintenant elle tourne. Donc là on va avoir affaire en fait à répondre à des soucis, par exemple de réponses qui n'ont pas pu être données à une question soumise ou à une requête donnée en base de données, ainsi de suite. Donc on est plutôt dans la partie... Ce qui se voit, on est vraiment dans le front office de l'application. L'intégration, c'est plus la partie back office, la partie front office. Et là, on fait attention aux métriques de l'application. On va regarder si l'application la rend bien son service, si elle n'est pas trop surchargée, parce que on peut très bien avoir des phénomènes non calculés, par exemple avec une date limite sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Ouais. On va avoir des pics avant d'usagers qui vont vouloir se connecter au service. Mmh. Il faut que le service puisse tenir la charge. Et s'il ne tient pas la charge, il faut qu'on puisse s'en apercevoir en production de manière à pouvoir faire des opérations.
C'est une sorte de saturation, par exemple.
Exactement, exactement. Mmh. Donc on est un petit peu les garants du système, puisqu'on est là en fait pour aider le système et que la fonction support puisse être réalisée.
Ce que vous disiez est intéressant par rapport à la simplicité d'utilisation. Alors, on ne mesure peut-être pas en simplicité, mais on fait des enquêtes de satisfaction auprès de nos usagers divers et variés. Donc, il y a différentes questions, dont des questions sur les applications informatiques. Et la dernière qui a été faite, donc on a 92% des entreprises qui sont très satisfaites, 93% des usagers et 88% des élus. Donc, les taux sont quand même relativement intéressants. Donc, ce qui veut dire que, j'allais dire, la qualité de service qu'on donne, que ce soit en termes administratifs ou en termes informatiques, est quand même relativement satisfaisant.
C'est aussi une manière aussi de permettre aux personnes, des fois, qui sont moins à l'aise avec l'informatique, et notamment peut-être les personnes âgées, aussi de leur montrer que c'est possible,
c'est possible,
le faire si on essaye. Et puis, est-ce que aussi, quand on se rend sur place, est-ce qu'il est possible d'aider ces personnes-là?
Là, c'est plutôt dans la sphère administrative, c'est-à-dire que vous avez des maisons France Publique qui sont installées, également certains services. Je crois que vous aviez quelqu'un de la DDFIB qui était venu présenter. Donc là, c'est vraiment complètement dehors de la sphère informatique. Et au niveau administratif, bien entendu, il y a des points de contact qui permettent donc aux usagers de se faire aider dans le cadre des grandes campagnes qu'on a et qui rythment l'année.
Alors, on va venir maintenant à un sujet relativement intéressant pour les personnes qui écoutent cette émission Job, c'est les emplois qui sont proposés. Vous nous avez dit tout à l'heure que tous les services recrutaient.
Oui.
Comment on fait déjà pour intégrer un de ces services et faire un de ces métiers?
Donc, on recrute par concours administratif, mais pas que. Donc, on a des concours administratifs catégorie A, donc Bac plus 3, et catégorie B, niveau bac, qui sont accessibles, donc soit des concours purement administratifs, soit des concours informatiques. Et au niveau informatique, on a trois concours. On a le concours catégorie B, qui est un concours de B programmeur, accessible niveau bac, mais il y a une épreuve informatique, donc il faut quand même avoir du bagage informatique. Enfin, je vais être très très clair. Un BTS, voire pourquoi pas une licence ou une licence pro. Voilà.
Ou une expérience.
Ou une expérience, ou être vraiment autodidacte. Et voilà. Et avoir quand même un certain nombre de connaissances en informatique.
Les langages de programmation se sont quand même pas mal développés. Maintenant, au niveau première, au niveau terminale, on commence à faire du Python. Mmh. Après, ça reste très léger. Là, quand même, ce qui est demandé, c'est vraiment d'avoir une vision en algorithmie en fait, sur des problèmes pratiques qu'on pourrait avoir en programmation. Hein. Voilà, par exemple, un fichier, une lecture d'un fichier, on va dire, voilà, ainsi de suite. Les boucles qui vont bien pour pouvoir le lire et qui peuvent traiter. Après, les langages ont été développés. Il y a le Python dans la liste des langages. Il y a également le Perl. On peut retrouver du Java également. Pour ceux qui, pour les spécialistes qui nous écoutent, ça peut être...
Et donc, vous avez ensuite niveau Bac plus 3. Donc, soit analyste, soit programmeur de système d'exploitation. Donc, ce n'est pas tout à fait le même métier. Hein. Un programmeur de système d'exploitation travaillera plutôt sur de l'exploitation applicative, de l'intégration, sur l'exploitation système. Alors qu'un analyste, ça sera plutôt sur du dev. Hein.
C'est ça, c'est la modélisation de l'UML, du Meris, et ensuite c'est la création du logiciel et son développement.
Donc ces concours, ils sont accessibles à Bac plus 3, donc ça peut être une licence ou au-delà d'ailleurs. Hein. Et par exemple, à titre d'exemple, on a des anciens élèves de Raoul,
Qui
du BTS, qui ont intégré nos services.
Et il y a une récurrence pour ces concours-là, par exemple, il y en a un, deux par an.
Il y en a tous les ans.
D'accord.
Tous les ans, les concours administratifs, donc il y a un calendrier.
Un seul par an, c'est ça?
Alors, dans chaque catégorie, c'est-à-dire concours inspecteur administratif, contrôleur administratif, contrôleur programmeur et les deux types d'inspecteurs informaticiens.
D'accord.
Il y a un concours par an. Au global, ça représente environ 3000 recrutements, donc à l'année, ce qui est quand même pas mal. On va dire que pour chaque concours administratif, ça va être une cinquantaine de postes, parce qu'on peut les passer... Alors, en externe, mais quand vous êtes en interne, et ça qui est intéressant aussi, catégorie B, vous pouvez ensuite passer des concours catégorie A.
Ça, c'est une possibilité d'évolution.
C'est une possibilité d'évolution, tout à fait. Donc, puisqu'on a tout un dispositif de formation et de préparation au concours qui nous est relativement envié, parce que voilà, on fait beaucoup de formation pour les concours, et on fait aussi beaucoup de formation continue. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui connaîtra tel langage informatique peut intégrer notre administration et peut, par le biais de formation, changer ensuite de mission au sein, par exemple, de l'informatique. C'est le cas pour nos intégrateurs qui font de l'intégration, là, qui suivent des formations assez pointues à l'heure actuelle sur du stockage ou autre.
Exactement. On a une grande variété de formations en interne, que ce soit à travers la DGFIP avec des collègues sur des langages spécialisés qui sont un petit peu perdus. Tout à l'heure, on parlait de Java, il y a du COBOL, par exemple. Ou alors sur des choses très pointues, comme par exemple les machines virtuelles, ou pourquoi pas, il y a aussi des formations sur tout ce qui est data scientist, par exemple. Voilà. Donc, on peut retrouver quand même une variété vaste de formations, et il faut que les collègues se forment et s'auto-forment constamment au niveau de nos métiers. Et on veille à ça aussi, en tant qu'inspecteur divisionnaire, par exemple, pour ma collègue.
Mais c'est vrai que c'est important parce que pour les personnes qui veulent rentrer dans un service, dans le milieu professionnel du moins, d'avoir une perspective comme ça d'avenir grâce à des formations, c'est vrai que c'est peut-être de plus en plus demandé, notamment par le jeune public qui a besoin peut-être d'un certain confort maintenant dans le milieu professionnel, et avoir une perspective avec ces formations, c'est vrai que c'est un atout de qualité quand même.
Tout à fait, vous pouvez rentrer avec un bac, contrôleur programmeur, et puis au fur et à mesure des années passant, vous allez vous spécialiser et peut-être que vous avez envie de continuer et de passer des responsabilités supérieures, et donc vous allez vous retrouver analyste et pourquoi pas inspecteur PSE. Alors pas forcément dans le même établissement.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Mais ça peut suivre un parcours de vie complet. En fait, ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est qu'on est très attaché aux relations humaines aussi, et on fait attention qu'il y ait quand même un développement personnel qui se passe de la personne.
Ça fait partie à faire progresser les collaborateurs qu'on a et qui ont tous du potentiel.
C'est ça.
Surtout les jeunes qui débutent et qui ont vraiment envie, donc on les aide à préparer leur concours.
Il se peut que vous alliez voir des personnes en leur disant écoute, ce serait sympa que tu les poses la question de
savoir
est-ce que j'ai envie de passer un concours supérieur, etc.
Oui. C'est ça. En fait, comme on est, partout sur tout le territoire national, qu'on a énormément de métiers, certains vont vouloir évoluer, d'autres non. Mais s'ils veulent évoluer, on peut les accompagner. Ça, c'est intéressant. Ils peuvent très bien être ensuite comme Laurent, lui, qui a un parcours un peu...
Alors, je suis un peu un particulier. Moi, je suis rentré contrôleur programmeur. Et ensuite, je suis passé le concours d'inspecteur PSE que j'ai eu. Donc, je me suis retrouvé une année à Toulouse. Très belle ville. Et ensuite, intégration à Nevers. Et au final, je ne suis pas du tout du coin, mais on y reste, on s'y plaît, parce que le département est quand même beau. Il y a pas mal de choses à faire, mine de rien. C'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est agréable. Et puis, après, j'ai eu la chance de passer la catégorie supérieure, donc inspecteur divisionnaire, qu'on ne peut pas accéder.
C'est vous qui l'avez décidé, ou c'est par exemple une personne au-dessus de vous qui vous a incité à...
Oui, c'est ça. En fait, au départ, ça vient toujours de la personne. On est écouté et puis on nous dit oui, effectivement, c'est le moment d'y aller. Ouais. On leur attend un petit peu et puis on verra un peu plus tard. C'est quelque chose de conjoint avec la hiérarchie. Et il faut que ça le soit.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut progresser donc, dans notre administration. Et donc, je disais, on a des exemples concrets. Je veux dire simple, ce n'est pas parce qu'on est dans la Nièvre qu'il faut se donner des complexes. C'est-à-dire, on peut très bien intégrer notre administration. Et là, on a trois collègues auxquels je pense, dont certains sont passés par le BTS à Raoul. Là, on reçoit pas mal de stagiaires du BTS de Raoul et également des apprentis. Donc, on a un collègue qui a fait le BTS, qui ensuite donc, a eu une licence pro, qui est revenu chez nous en apprentissage en licence pro et qu'on a embauché comme contractuel. Parce qu'au-delà des concours, on embauche également des contractuels. Donc, c'est des contrats de 3 ans renouvelables une fois. Donc là, il est chez nous depuis quelques temps maintenant. Il envisage de passer un concours. Ouais. Et on a aussi 2 autres collègues donc, qui sont originaires de la Nièvre, dont un était apprenti chez nous.
Même avant, il est venu pour les stages de 3e.
Voilà. Et donc, on l'a accompagné. Il a eu une première expérience professionnelle. On a proposé des emplois de contractuels qu'il a eu. Et là, il vient brillamment, viennent brillamment de réussir le concours d'inspecteur PSE en externe.
Et donc là aussi qui fait le lien avec finalement la perspective aussi qu'on peut avoir. Pour s'inscrire justement
à ces
concours, comment ça se passe? Et puis peut-être avoir aussi 2-3 mots sur comment se passe le concours, le moment où on arrive dans la salle et qu'on doit passer ce fameux concours.
Donc pour vous inscrire, en fait, vous avez un site qui s'appelle rejoindre les finances publiques. .economie.gouv.fr, tout attaché, rejoindre les finances publiques, qui vous présente à la fois nos différents métiers, que ce soit en sphère administrative ou en sphère informatique, qui vous donne donc les plannings, les calendriers des concours, et qui vous dirige vers les sites où vous inscrire. Les inscriptions se font en ligne. Vous passez ça en effet dans une grande salle où vous êtes assez nombreux. Donc je pense que tous les départements ne sont pas chef-lieu de concours, donc il faut éventuellement bouger un petit peu, à vérifier, je m'avance pas. Et puis donc une fois que vous avez passé ces premières épreuves, donc c'est l'admissibilité, vous avez ensuite des épreuves orales d'admission. Donc, pour les concours informatiques, je crois qu'il y a plusieurs épreuves à l'écrit, en externe.
Oui, c'est ça. Pour inspecteur, moi, je connais bien le inspecteur PSE. Donc, l'inspecteur PSE, on va avoir trois épreuves. On va avoir une épreuve qui est une épreuve d'analyse, en fait. On va prendre une note, plusieurs documents administratifs. On va faire une note de synthèse dessus, en fait. Voilà. Ensuite, on va avoir une épreuve de spécialité informatique derrière, en fait. On choisit un système d'exploitation qui est donné, puisqu'en fait, programmeur système d'exploitation, en fait, c'est administrateur système, si vous voulez, voilà. Donc, on choisit un système d'exploitation, Windows, Linux, Unix, même à la limite Android maintenant, ou Mac, et on essaye de répondre aux questions qui sont données, pour le faire. Donc, normalement, après, si tout va bien, on va sur questionnement oral, en fait, il y a deux épreuves.
L'écrit,
il y a
une épreuve écrite, validée, l'oral.
Voilà, c'est ça, une épreuve écrite. Hein. Donc, en fait, une fois que le candidat donc, est reçu à l'épreuve écrite, il est dit admissible. Ensuite, il passe une épreuve orale, et à l'issue des deux épreuves orales, il est reçu. Si tout va bien, il est admis. Sinon, il aura le droit de repasser l'année prochaine.
Voilà. Et donc, au niveau de l'oral, donc, la première épreuve, elle est plutôt général, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un entretien avec le jury. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre parcours? Parce que certains peuvent déjà avoir un parcours. Donc, c'est pas de l'informatique pure. On peut demander ce qu'ils font, etc. Et la deuxième partie, par contre, c'est vraiment tirage d'un sujet. C'est vraiment une question informatique pour l'oral.
Combien de postes recrutent à Nevers?
Alors, c'est pas un recrutement à Nevers, c'est un recrutement national déjà. Donc, on ne fait pas de concours locaux ou départementaux. Vous êtes affecté au plan national quand vous êtes recruté.
D'accord.
Et suivant les années, si on a des postes disponibles sur Nevers, on peut demander. Exactement. Okay. Voilà. Mais là, ça dépend des départs qu'on a, des arrivées qu'on a. Le recrutement est national. Et ensuite, c'est une scolarité qui va de septembre à mai, qui se passe à Toulouse, puisque notre école informatique est là-bas. C'est rémunéré. C'est-à-dire du moment où vous rentrez, vous êtes rémunéré comme
stagiaire.
À l'image
d'un apprentissage un petit peu.
C'est ça. Ouais. Nettement quand même mieux rémunéré. C'est une vraie rémunération. C'est-à-dire, dès la première année, vous avez un salaire d'environ
Dans les 2000 euros.
Dans les 2000 euros pour... Voilà. Donc, c'est vraiment rémunéré. Et puis ensuite,
tout à fait. Bon, après, il faut payer le logement.
Oui, c'est vrai que Toulouse, c'est pas Nevers.
Toulouse, c'est pas Nevers. Voilà, c'est ça.
Et donc, ensuite, vous savez rapidement, j'allais dire, entre octobre et novembre, où vous allez être affecté. D'accord. Et puis après, vous pouvez très bien bouger au bout de 2 ou 3 ans et changer. Donc, il ne faut pas avoir peur de la première affectation géographique. C'est peut-être pas toujours celle qu'on veut.
Est-ce que c'est ça aussi qui explique peut-être, des fois, le manque de candidature? C'est que les gens n'ont pas forcément envie de partir de chez eux.
Non, mais en fait, ce qu'il faut voir, il y a deux choses, moi, je pense. Il y a déjà l'aspect concours. C'est pas évident de se retrouver. Ça fait un peu vieillot, le concours, en fait. Quand on pense concours, on pense quelque chose d'un peu vieillot. En fait, ça l'est pas du tout. C'est quelque chose qui est très, très novateur, qui est encore bon, encore aujourd'hui, parce qu'il y a l'anonymat des copies, parce que c'est vraiment la chance à tout le monde, en fait. Le jour où vous allez vous retrouver...
C'est l'égalité des chances.
C'est l'égalité des chances. Il y a une double correction. C'est exactement comme quelqu'un passe le bac, en fait. C'est exactement. Ou alors le brevet. Vous avez à chaque fois quand même quelque chose qui est pas mal au niveau du parcours, en fait, pour intégrer le métier. C'est quand même quelque chose qui est très bien.
Alors, quand on est fonctionnaire, on sait qu'on n'est pas obligatoirement affecté dans notre région d'origine au départ, mais on peut très bien y retourner. Hein. En tout cas, pour ma part, c'est un choix volontaire de ne pas y retourner, parce que je suis depuis très nombreuses années dans la Nièvre. J'y suis arrivée, j'ai commencé ma carrière il y a quelques années, j'ai débuté par le Cher, l'Allier et la Nièvre, et je m'y sens très bien. Mais c'est très personnel, mais vous pouvez bouger, puisque que ça soit la direction départementale, il y en a une dans chaque département. L'informatique, on a quand même 35 structures. Vous pouvez travailler en région parisienne. Donc voilà, vous pouvez, celui qui veut bouger peut bouger. Celui qui ne veut pas ne bouge pas. Et exactement la même chose en termes de promotion ou de passage de concours.
C'est ça.
Ça, c'est important.
Le premier critère qui est important après qu'il passe le concours, c'est de bien le réussir. Parce qu'en fonction de son rang de classement, il aura le choix. C'est comme ça que ça se passe à l'école. C'est-à-dire que c'est en fonction de son rang de classement
Sachant qu'on a aussi maintenant quand même, on double aussi d'un recrutement un petit peu sur profil. C'est-à-dire les gens nous envoient des CV, je sors de l'école, je fais et on regarde un petit peu.
Et d'autant plus en informatique. Mais dans le cadre général, on est vraiment sur ces résultats en fait, de l'examen principal d'admission, on va dire, qui permet derrière de définir où c'est que vous irez en fonction des postes ouverts. Je rappelle rappel, ça c'est important aussi.
Peut-être donc une formation de 10 mois, alors qui est importante, puisque comme le disait Laurent, quand on rentre dans l'administration, on a chacun sa formation, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on y fait.
Ouais.
Moi, j'ai eu des questions, on intervient sur plusieurs salons, on a été à la nuit de l'orientation, on a fait les portes ouvertes
à
Jules.
Oui, bien sûr.
Voilà, on va être à Stage Academy dans peu de temps. Et en fait, certains, oui, mais pourquoi, quelle utilité d'avoir un an de formation? Mais si, parce que voilà, on n'utilise pas tout le temps les mêmes technologies, on a quand même une culture, voilà. Et donc, c'est en effet 10 mois, mais 10 mois sur Toulouse, mais rémunéré, puisque quand vous êtes stagiaire, vous êtes rémunéré, puis après, vous avez un déroulé de carrière, voilà.
Ouais, et puis avec des avantages quand même qui sont importants. Être fonctionnaire, c'est aussi la sécurité de l'emploi. C'est un salaire intéressant.
Intéressant.
Et puis c'est des horaires aussi. Train de vie qui est quand même relativement intéressant.
Dans l'informatique, on peut avoir quand même certaines astreintes, puisqu'il faut que les applications marchent H24, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ce qu'il y a, c'est que, alors qu'on est au cœur de l'État, on est au service de tous et sur tout le territoire, donc ça c'est important. Et puis on a quand même un certain nombre de conditions de travail qui sont en effet intéressante. On propose par exemple du télétravail. On a un droit à la déconnexion, donc ça c'est pas le cas partout. Puis on a toute une politique d'égalité, d'inclusion également. C'est quand même relativement, intéressant, ça aussi. Et en effet, mon fonctionnaire, c'est un déroulé de carrière qui peut être intéressant, un salaire qui l'est aussi, un certain nombre de jours de congé. On peut faire, les collègues de Laurent peuvent faire jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Donc c'est quand même pas négligeable.
Parce qu'il est de plus en plus demandé maintenant, après le Covid d'ailleurs. C'était quelque chose qu'on n'entendait pas du tout avant, du moins beaucoup moins. Et l'effet Covid fait que c'est un style de vie qui a plu à beaucoup de personnes et s'y ont attaché.
Et contrairement à certaines entreprises privées, vous pouvez voir un certain nombre d'articles, nous ne revenons pas à la DGFiP sur le télétravail. Le télétravail existe, c'est un acquis et qu'on conserve.
Vous regardez
dans la presse, on a un certain nombre d'entreprises qui commencent à revenir sur ça. Ce n'est pas du tout notre cas à la DGFiP. Donc, on peut très bien avoir une vie personnelle et une vie professionnelle épanouie chez nous.
Et je pense que ce qu'on peut retenir aussi, c'est cette perspective d'évolution, parce que c'est vraiment intéressant. Je pense que pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent rejoindre, qui ont dans un coin de leur tête l'idée de rejoindre donc un de ces services et de faire un de ces métiers, on peut vous retrouver donc justement à Stage Academy, ça c'est important de le dire parce que c'est très prisé de la part des jeunes.
Ici. Et il y a aussi, je vous arrête, aussi une dimension publique, ça veut dire qu'on est là pour donner un sens à l'action publique en fait, on travaille pour quelque chose d'utile. Bon, je sais que les jours, on peut voir que l'application fonctionne, que l'application marche, que les gens l'utilisent, que dans les enquêtes de satisfaction, on est plutôt pas mal noté. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même important. Il y a un sens à notre travail, il y a un sens non marchand. Ça, c'est aussi intéressant.
On utilise quand même des technologies qui sont innovantes et notre administration ne rechigne pas à nous former. C'est-à-dire, on a un certain nombre de formations qui sont faites en interne, mais en serre informatique, on a recours à des boîtes privées vraiment qui font des formations très pointues. Donc ça, c'est quand même important.
On va rappeler les sites internet donc pour vous rejoindre, pour avoir plus d'informations encore sur les métiers proposés et sur les formations ainsi que les concours.
Alors, rejoindre les finances publiques .economie.gouv.fr où vous trouverez les différentes missions et puis tous les liens nécessaires pour les concours. Et puis pour les autres modes de recrutement hors concours, parce qu'on recrute également des contractuels, des stagiaires. C'est intéressant également parce qu'en seconde, maintenant, on a un stage obligatoire. Donc on prend également des stagiaires de seconde. Pas énormément, mais on en prend. Et puis, donc, on a également des apprentis qu'on recrute. Là, on a un apprenti qui est avec nous pendant 2 ans. Donc là, c'est choisirleservicepublic.gouv.fr, nos offres, où vous avez tout ce qui concerne les stages, les apprentissages.
Alors, on est aussi présent sur Welcome to the Jungle, aussi également. Et également, on a une chaîne YouTube DGFiP qui explique les métiers et les missions, qui est toujours intéressant à regarder.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Voilà Bac FM, tout de suite c'est le retour du son pop rock. Je vous souhaite une belle soirée, on se retrouve demain à 10h30 pour votre rendez-vous ciné sur Bac FM Action. Je serai avec Laetitia et Manuel, d'ici là je vous souhaite une très belle soirée et à demain, bye.